Radio Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
À la une, encore Ebola. Nous serons pour cela en Ituri où beaucoup de voyageurs qui font la route en Mongualou ne respectent pas les mesures barrières. Entre-temps, dans la province voisine du Nord Kivu, le gouverneur sensibilise déjà sur ces mesures de protection. Et pour se protéger, justement, le Rwanda vient de fermer partiellement sa frontière de Gisenyi. En Nord Kivu encore, le consortium FEDAPID et ACDH tirent la sonnette d'alarme sur la situation des défenseurs de droits humains. Dans une lettre adressée à la Commission nationale de droits de l'homme, il signale au moins 9 défenseurs tués et 16 poursuivis en justice rien que cette année. Vous suivez Vicar Angui, coordonnateur du FEDAPID. Le ministère de l'Éducation nationale vient de poser les jalons de l'intégration du narratif génocide dans le programme de l'enseignement primaire et secondaire en RDC. Nous en parlons avec notre invité, le conseiller en charge de la citoyenneté et de l'inclusion au sein de ce ministère, Godefrey Talaboulou, notre invité. Madame, monsieur, bonjour. Ce journal parle de l'Ituri. De nombreux voyageurs qui empruntent l'axe Bunia-Mongualou, deux principaux foyers de l'épidémie d'Ebola, continuent de négliger les mesures de prévention contre cette maladie. Entassés chaque jour dans des camions de transport, plusieurs passagers ne portent ni cache-nez et ne disposent pas de désinfectants non plus. Certains affirment même ne pas croire à l'existence de cette épidémie. Plusieurs sources médicales estiment que cette situation appelle à un renforcement urgent des campagnes de sensibilisation. Isaac Raymond.
Chaque matin, près de 20 camions transportant des marchandises et des dizaines de passagers quittent Bunia en direction de Mongualou. À cela s'ajoutent plusieurs camionnettes et véhicules de transport en commun. Dans la plupart de ces véhicules, les passagers voyagent les uns contre les autres sans respecter les mesures barrières recommandées contre Ebola. Très peu de voyageurs portent un cache-nez ou disposent de désinfectants pour les mains. Certains disent compter uniquement sur la protection divine, tandis que d'autres affirment ne pas croire à l'existence même de cette maladie. L'une de rencontrer au parking du marché central de Bunia.
Moi, je ne suis pas certain de l'existence de cette épidémie. J'ai entendu dire qu'Ebola sévit et dans la région, mais je ne sais pas s'il s'agit réellement d'Ebola ou d'une autre maladie. Chacun meurt avec des symptômes différents, donc je ne suis pas convaincu de la maladie qui tue réellement les gens. C'est pourquoi je reste sceptique et je ne porte pas de cache-nez.
Selon plusieurs sources médicales, cette méconnaissance du danger représente un risque majeur pour la propagation de l'épidémie qui aurait déjà causé plus de 80 décès dans la région. Ces sources demandent au gouvernement ainsi qu'aux partenaires de santé de renforcer les mesures de sensibilisation et de prendre des mesures afin d'obliger les usagers de la route à respecter les gestes barrières. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Ebola encore avec cet appel du gouverneur du Nord Kivu voisin. Il appelle la population au strict respect des mesures barrières pour prévenir la propagation de la maladie qui sévit en Ituri. Cet appel intervient alors que des cas suspects ont été signalés dans certaines zones de santé du Nord Kivu. La conseillère du gouverneur en charge de la santé rappelle ici quelques-unes des mesures barrières à respecter pour ne pas attraper la maladie à virus Ebola. Prisca Kamala Luanda est au micro de Marc Marufimbo.
Vu l'intensité des mouvements et des échanges facilités par des trafics intenses entre les zones touchées et la province du Nord Kivu, la population se trouve extrêmement exposée au risque de cette maladie mortelle. Certains malades suspects en provenance des milieux touchés sont déjà identifiés avec des signes de cette épidémie dans certaines zones de santé dans notre province. Pour ce faire, il nous recommande la stricte observance des mesures barrières ci-après. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Éviter les contacts avec tout malade présentant ou non les signes d'Ebola cités ci-haut. Éviter de se serrer les mains et de se faire des accolades pendant toute la période de l'épidémie. Si un malade, membre de famille, est confirmé positif d'Ebola, faites appel à l'équipe pour décontaminer ou désinfecter la maison.
Et sur place, du côté du Nord Kivu, les postes frontaliers entre Goma et Gisenyi sont partiellement fermés du côté rwandais depuis tôt ce dimanche 17 mai. Selon plusieurs sources concordantes, cette décision ferait suite au signalement de cas suspects d'Ebola dans la ville de Goma. Ce matin, plusieurs habitants de Gisenyi qui traversent habituellement la frontière ont été stoppés, notamment à la petite barrière. D'autres ont été refoulés au niveau de la grande barrière, communément appelée la corniche. À ce stade, aucune communication officielle n'a encore été rendue publique. Bernard Danyangi pour les détails.
Sur les deux principaux points de passage, la grande barrière et la petite barrière, seuls les Congolais présents au Rwanda et souhaitant regagner leur pays sont autorisés à entrer, de même que les Rwandais retournant chez eux. En revanche, les mouvements aller-retour entre les deux villes sont suspendus, affirment plusieurs témoins. Du côté de Goma, certaines sources médicales évoquent au moins deux cas suspects détectés dans une structure hospitalière de la place. Juin ce matin, un Congolais résident à Gisenyi affirme que lui et sa famille n'ont pas été autorisés à traverser la petite barrière pour se rendre à leur lieu de culte à Goma. Selon lui, des responsables leur auraient officieusement indiqué qu'il s'agirait d'une mesure temporaire liée à la vigilance accrue après la récente déclaration d'une épidémie de maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri. Une disposition qui s'inscrirait donc dans une démarche préventive de contrôle sanitaire. Notre interlocuteur redoute cependant les conséquences de cette situation, notamment pour les élèves scolarisés à Goma, les travailleurs transfrontaliers, ainsi que pour l'ensemble des échanges socio-économiques entre les deux villes qui risquent d'être sérieusement perturbés.
Clôturons cette page santé avec la célébration aujourd'hui 17 mai de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. À Matadi, la montée des cas de maladies liées à la tension artérielle chez les enfants est de plus en plus signalée. Longtemps considérée comme une maladie d'adulte, l'hypertension touche désormais aussi les plus jeunes. Mauvaise alimentation, manque d'activité physique, stress. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme face à ce tueur silencieux. Parents, écoles et professionnels de santé sont appelés à redoubler d'efforts pour protéger les enfants. Mais quels signes peuvent alerter Elise Kavira?
Maux de tête répétés, fatigue inhabituelle, essoufflement ou encore difficulté de concentration. Chez l'enfant, ces signes peuvent révéler une hausse ou une baisse des tensions selon les médecins. C'est le cas de Frazi Vangu. Aujourd'hui âgée de 29 ans, elle raconte avoir fait sa première crise d'hypotension à seulement 9 ans.
Je me sentais juste très fatiguée. Il m'arrivait vraiment de me sentir très essoufflée après quelques pas. Au début, on s'était dit certainement que c'était un début de malaria. Je suis allée à l'hôpital. On prélève la tension, j'étais à 6. Le médecin m'a regardé, il m'a conseillé d'apprendre à extérioriser quand j'ai un problème que j'en parle.
Au-delà du stress, les médecins pointent plusieurs facteurs de risque. Parmi eux, la sédentarité de plus en plus fréquente chez les enfants. Le docteur Georges Baka s'inquiète.
La technologie nous a amené beaucoup d'avantages, mais également des inconvénients. La sédentarité, vous voyez aujourd'hui des enfants passer plusieurs heures devant la télé. C'est vraiment inquiétant, nous devons le signaler, parce que de plus en plus, il y a des cas d'hypertension artérielle en pédiatrie.
Pour limiter les risques, les spécialistes recommandent des gestes simples. Surveiller régulièrement la tension, adopter une alimentation saine, faire du sport et surtout réduire le temps passé devant les écrans. Matadi, Elise Kavira, Radio Kapi.
Retour au Nord Kivu, le consortium FEDAPIDS, foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse, et ACDH, alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, tire la sonnette d'alarme sur la situation des défenseurs des droits humains. Dans une lettre adressée à la Commission nationale des droits de l'homme, ces organisations évoquent au moins 9 défenseurs tués et 16 poursuivis en justice rien que cette année. Elles appellent à leur protection et à l'application effective de la loi en vigueur. Vicar Batundi Angui, coordonnateur de FEDAPI, déjoint par Bernard Denyangui.
Notre action est intervenue après une documentation de la situation des défenseurs de l'environnement, des droits fonciers, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Pohuele, Maniema, La Tchopo et en Équateur. Nous avons montré notamment l'assassinat des 9 défenseurs des droits de l'homme et 16 autres poursuivis en justice de janvier 2026 jusqu'à aujourd'hui. Il nous a été motivé de présenter la problématique parce que bientôt nous allons atteindre 3 ans quand notre pays dispose d'une loi qui protège les défenseurs des droits humains en général, y compris les environnementaux. Mais au lieu que la loi puisse améliorer les conditions de travail des défenseurs des droits de l'homme, nous constatons la détérioration. C'est pourquoi nous attirons l'attention des autorités à tous les niveaux pour que des mesures soient prises contre tous les auteurs des violations des droits des défenseurs des droits de l'homme.
Notez que ces plaidoyers s'inscrivent dans le cadre du projet Climat propice au travail des défenseurs de l'environnement RDC. Il est mis en œuvre par le consortium FIDAPID ACDH dans les 5 provinces du UPI. Et puis cette hausse de la criminalité signalée dans les territoires d'Isangui, c'est à 125 km en aval de Kisangani sur le fleuve Congo, dans la province de Latchopo. Les organisations de la société civile locale tirent la sonnette d'alarme face à la recrudescence des cas de meurtre et de braquage depuis le début de l'année. Le dernier drame s'est produit dimanche dernier sur l'axe Isangui-Yangambi. Un commerçant a été abattu et dépouillé de plus de 10 millions de francs congolais. Pour dire non à cette insécurité, une marche pacifique a été organisée vendredi dernier. Elle a débouché sur la remise d'un mémorandum à l'autorité administrative locale. La société civile exige des gouvernants des actions concrètes pour protéger la population. Suivez un extrait de ce mémorandum lu ici par leur porte-parole en choix de Jacques Mukonkole.
Au regard de la gravité des faits, nous demandons à son Excellence le ministre l'ouverture d'une enquête administrative urgente sur la gestion sécuritaire du territoire d'Isangui, de compléter le poste de l'administrateur du territoire titulaire vacant depuis la dernière arrêté portant la mise en place des administrateurs du territoire, la nomination d'une nouvelle autorité territoriale compétente et capable de restaurer l'ordre public, le renforcement immédiat des dispositifs sécuritaires dans le territoire d'Isangui. À l'autorité qui est ici intérimaire, en attendant les décision du gouvernement, vous êtes légalement tenu d'assurer la continuité de l'État. À ce titre, nous vous mettons en demeure de prendre les mesures urgentes visibles de sécurisation du territoire. Organiser le dépouille mixte police FARDC sur les accès à haut risque. Mettre fin aux actes de justice populaire par des actions de sensibilisation, d'encadrement et par ta force coercitive. L'autorité de l'État ne peut être symbolique. Elle doit être effective, visible et protectrice.
Parlons à présent de cette première rencontre hier samedi à Biakato, dans le territoire de Mambasa en Ituri, entre les responsables des FARDC, de la MONUSCO et les populations locales. Objectif, rassurer les habitants face à la recrudescence d'attaques attribuées aux rebelles des ADF. À cette occasion, les responsables militaires ont promis un renforcement des opérations militaires dans cette partie de la province. Il faut dire que la situation est difficile à vivre. Jean-Claude Lokidile.
À Biakato, chef-lieu de la chefferie des Babila à Babombi, les habitants vivent depuis plusieurs mois dans un climat de peur marqué par la multiplication des attaques armées attribuées aux rebelles des ADF. Selon des sources de la société civile, plus de 130 civils ont été tués en l'espace d'un mois dans cette région. Ces violences ont également provoqué le déplacement de milliers de personnes vers des zones jugées plus sécurisées. Face à ces situations, les FARDC et la brigade d'intervention de la MONUSCO ont rencontré ce samedi les communautés locales afin de recueillir leurs préoccupations sécuritaires et les rassurer sur les mesures prises pour renforcer leur protection. Les responsables militaires annoncent notamment le renforcement des effectifs ainsi que de moyens logistiques pour intensifier les opérations contre les groupes armés dans cette partie du territoire de Mambasa. Le commandant de la brigade d'intervention de la MONUSCO a également appelé la population à faire preuve de vigilance face aux rumeurs et à la désinformation susceptibles de fragiliser les efforts de stabilisation dans la région. Bounia, Jean-Claude Doki, Guilé, Radio Capi.
Parlons de cette bonne nouvelle. Dans la province du Sankuru, le pont Lokenye, situé sur l'axe Lodja-Benadibele sur la RN7, a retrouvé sa solidité. L'office des routes a remplacé les écrous au volet, une situation qui fragilisait davantage dangereusement l'ouvrage. Les usagers saluent ces travaux et Sandra Fina nous explique ce qu'il en est.
Depuis près d'une semaine, le pont Lokenye est de nouveau opérationnel et sécurisé. L'office des routes a procédé au remplacement des écrous dérobés il y a quelques mois par des incivils, un acte qui avait affaibli la structure et exposé les usagers à de sérieux risques. Outre le remplacement des pièces manquantes, les équipes techniques ont également soudé quelques traverses du pont afin de renforcer sa résistance et garantir la continuité du trafic sur ce tronçon stratégique de la RN7. Ces travaux sont largement salués par les usagers qui y voient un soulagement pour leur déplacement quotidien et pour l'acheminement de marchandises. Il faut rappeler que le pont Lokenye constitue la principale voie d'entrée des marchandises à Lodja en provenance de Kinshasa via le port de Benadibele situé à plus ou moins 150 km. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Et puis le député national Claude Missa Remou Gombera plaide pour la reprise des travaux de construction des postes frontaliers de Sangé, Nyamoma et Rubenga dans les territoires d'Uvira au Sud-Kivu. Dans une correspondance adressée vendredi au ministre du Commerce extérieur, l'élu d'Uvira dénonce l'arrêt des travaux malgré le retrait de rebelles du M23 de la zone. Il rappelle que ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, financé notamment par la Banque mondiale. Claude Missa sollicite le déploiement d'une mission mixte afin d'évaluer la situation de ce chantier. Ce chantier est donc présenté comme un levier important pour l'emploi et la relance économique locale. Claude Missa est ici au micro de Grâce Amzati.
J'ai été alerté par la population d'Ouvira qui s'attendait à la reprise immédiate des travaux de construction des postes frontaliers de Nyamoma et de Rubenga après le retrait du M23. Mais au moment où la population est dans la joie après le retrait du M23, au moment où nos compatriotes réfugiés au Burundi commencent à regagner les pays, nous apprenons avec amertume que la Banque mondiale vient de résilier le contrat de construction de deux postes frontaliers seulement deux jours après le retrait du M23. Pourtant, ces travaux étaient déjà financés à hauteur de 30% et ce projet devait permettre l'emploi de plus de 1800 personnes. Voilà pourquoi, en tant qu'élu du peuple et afin de comprendre les enjeux qui se cachent derrière cette décision très décevante, j'ai adressé une lettre de dénonciation à son Excellence Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, tout en demandant, afin de soulager cette population victime de la guerre d'agression, la reprise urgente des travaux.
Nous n'avons pas encore réussi à joindre la Banque mondiale pour obtenir sa réaction sur ce dossier.
Actualité internationale.
Un haut responsable de l'État islamique vient d'être tué lors d'une opération conjointe menée par les forces américaines et nigériennes dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'ont déclaré les présidents des deux pays. Soumis à des sanctions américaines depuis 2023, Abu Bilal al-Minouki était le numéro 2 de l'État islamique à l'échelle mondiale selon le président américain ainsi que l'armée nigériane. Ce soir, sous mes ordres, les courageuses forces américaines et les forces armées nigérianes ont mené à bien une mission méticuleusement planifiée et très complexe visant à éliminer du champ de bataille le terroriste le plus actif au monde, a déclaré Trump dans un message publié sur Truth Social annonçant pour la première fois cette élimination.
L'invité.
Le ministère de l'Éducation nationale a posé les jalons de l'intégration du narratif génocide dans les programmes de l'enseignement primaire et secondaire en République démocratique du Congo. Invité de Radio Okapi, le conseiller en charge de la citoyenneté et de l'inclusion au sein de ce ministère, Godefroy Talaboulou, explique qu'à ce stade, un guide national de formation ainsi que des outils pédagogiques adaptés sont en cours d'élaboration. Il précise également que la thématique de génocide est en train d'être intégrée dans les différents cours de matières transversales dans les niveaux d'apprentissage des enfants. Godefroy Talaboulou s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Godefroy Talaboulou.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Le ministère de l'Éducation nationale a pris l'option d'intégrer les génocostes dans l'enseignement primaire et secondaire. Quelle analyse faites-vous de cette approche?
Il s'agit ici de former les enfants à la mémoire collective, au patriotisme, à la défense du territoire national, mais aussi à la culture de la paix, à la tolérance, à la prévention de conflits. Et donc nous partons d'un fait historique pour amener les enfants à développer l'esprit critique et à défendre leur histoire et à éviter que les horreurs du passé ou les atrocités du passé puissent se répéter dans l'avenir.
Comment se fera cette initiation dans les écoles?
Nous allons les faire à travers les programmes scolaires, d'où l'atelier d'aujourd'hui qui a consisté à former un noyau formateur central sur le contenu ou les narratifs de génocide, mais à côté des programmes scolaires, le thème étant transversal, nous allons aussi utiliser les clubs d'éveil citoyennes qui constituent un dispositif d'échange, de réflexion et d'action au sein des écoles. Ces clubs qui ont été créés par l'arrêté Son Excellence Madame la Ministre d'État de l'Éducation nationale afin d'engager les élèves dans des réflexions, dans des actions qui promeuvent justement une nouvelle citoyenneté. Parmi ces actions, il y a la mémoire collective, il y a la mémoire historique, il y a le patrimoine patriotisme, il y a le respect de bien commun, il y a la promotion de l'unité, la fraternité nationale et il y a le civisme.
Qui répondez-vous à certains Congolais qui estimaient intégrer ou créer tout un cours pour enseigner aux enfants les génocostes?
Que ce soit un cours, que ce soit un chapitre, le plus important pour nous c'est de développer, de former les enfants cette thématique. Et à chaque niveau, nous avons des compétences ou des profils de sortie attendus d'un élève et nous voulons justement nous assurer que les heures réservées à ces thématiques puissent aboutir au développement de ces compétences par l'élève. La matière étant sensible, nous devons développer des outils pédagogiques adaptés, mais aussi le volume d'heures adaptées aux différents âges, parce que le ministère s'occupe des enfants de 3 ans jusqu'à 18 ans. Donc c'est ça le travail pédagogique justement, d'intégrer cela dans différentes matières, différentes branches, et que ça soit un thème transversal, mais avec des volumes différents selon qu'on est d'un âge à l'autre.
Après le développement des outils pédagogiques, quelle sera la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est justement de former les enseignants, de former les inspecteurs et d'écrire le contenu, les curricula scolaires, mais aussi d'écrire les guides d'animation des clubs d'éveil citoyen, parce qu'on va aborder ces questions dans ces clubs avant de lancer dès l'année prochaine les activités proprement.
En marge de cette activité ou de cette initiative, avez-vous un message à lancer aux enfants, aux enseignants et aux inspecteurs de l'école primaire et secondaire?
Le message que je lance à toute la communauté, d'ailleurs à l'ensemble de la population congolaise et particulièrement les enseignants et les élèves, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle ère où l'école congolaise ne devient pas seulement un endroit où on transmet les connaissances ou les savoirs, c'est aussi un endroit où nous formons l'homme dans son intégralité. Nous formons la tête, nous formons le cœur, nous formons les mains, nous formons un nouveau type de Congolais, un nouveau type de Congolaise. La citoyenneté prend une place de choix. Parce que nous pensons qu'on peut beau développer des programmes économiques, si cet homme n'a pas l'amour de la patrie, n'a pas l'amour de son voisin, de son compatriote, n'a pas le sens du respect de bien commun, n'a pas l'amour, ne considère pas la promotion de l'unité et ne valorise pas la diversité qui nous caractérise, nous ne constituerons pas une nation forte à même d'assumer le rôle que nous avons d'amener l'Afrique vers un développement beaucoup plus assuré. Donc nous voulons, comme la Mineta le veut bien, à l'horizon 2029, que notre système éducatif revêt d'un caractère reconnu internationalement et puisse être un système d'excellence en Afrique qui traîne les autres vers le développement attendu.
Monsieur Godfrey Talaboulou, nous vous disons merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Godfrey Talaboulou, conseiller en charge de la citoyenneté et de l'inclusion au sein du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jean Gandou, mis en onde par André Mongou. Merci à vous tous également qui nous avez suivis.